Et le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous. À 2 mois du Brexit, Theresa May espère encore rouvrir les négociations avec l'Union européenne. Pour obtenir le soutien du Parlement britannique, la Première ministre juge nécessaire de revoir le backstop. Disposition concernant la frontière irlandaise. On fait le point avec Antoine Gignot dans un instant. Quand des valises de billets en provenance du Qatar sont livrées au Hamas avec la bénédiction d'Israël, avec Étienne Monin, nous reviendrons sur les raisons de cette pratique destinée à maintenir Gaza hors de l'eau. La France se prépare à l'éventualité du retour de djihadistes français. Une option parmi d'autres, affirme le Quai d'Orsay, mais une option que le retrait américain de Syrie rend plus probable. La loi Casseur examinée à l'Assemblée, la proposition de loi profondément remaniée en commission ne fait vraiment pas l'unanimité, nous dira Maxime Fayolle. L'accord est à prendre en l'état. Les Européens ne cessent de le répéter, mais Theresa May veut toujours négocier. Après le retrait par la Chambre des communes de l'accord de Brexit, négocié avec Bruxelles, le Parlement britannique examine en ce moment une série d'amendements au projet de retrait. Et Theresa May semble maintenant penser que l'Union européenne sera plus facile à amadouer que les députés. Elle espère que Bruxelles acceptera de revoir la clause du backstop concernant la frontière irlandaise, Antoine Gignot.
C'est un appel à la mobilisation générale. Theresa May le dit, elle est certaine de pouvoir obtenir la réouverture des discussions avec Bruxelles, à condition d'être soutenue par les députés. Les jours qui viennent vont être décisifs, dit-elle. Quand je vais retourner à Bruxelles, il faudra que j'ai derrière moi le plus grand soutien possible. Je n'arrêterai jamais de me battre, mais les chances de succès sont bien moins importantes si le Parlement me laisse une main attachée dans le dos. Alors je demande aux députés de me donner le mandat dont j'ai besoin pour rouvrir les négociations. Et la Première ministre promet aux élus qu'ils auront de nouveau la possibilité de proposer des modifications du texte mi-février. Un report de plus, s'insurge Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche. Après le 29 mars, ça ne servira à rien de dire « je vous avais prévenu ». Quand les camions seront coincés sur l'autoroute M20, quand les patients atteints de cancer n'auront pas de médicaments, quand les prix augmenteront, c'est ce soir que nous avons la possibilité d'écarter une sortie de l'Union européenne sans accord. Les députés se prononceront à partir de 20h sur les différentes options. Si le débat entrecoupé de cris arrive au bout, chez les travaillistes, Jim McMahon résume en 2 mots la situation. Au milieu des querelles puériles, avez-vous une idée de l'image qu'on donne du Parlement à la télévision ?
Antoine Gignot, correspondant de France Culture à Londres. Un groupe se présentant comme l'IRA a revendiqué l'attentat à la voiture piégée du 19 janvier à Londonderry. Cette explosion devant un tribunal n'avait pas fait de victime. Notre combat continue, déclare le groupe dans un communiqué. Il précise que les débats sur le Brexit n'ont aucune influence sur son action. Après sa visite en Égypte, Emmanuel Macron est arrivé cet après-midi à Chypre où se déroule le MED7, un sommet des pays du sud de l'Union européenne. Le président chypriote a accueilli les ministres italiens, grecs, portugais, maltais et espagnols en plus du chef de l'État français. Cette 5e réunion doit permettre aux dirigeants d'aborder les défis auxquels les pays bordant la Méditerranée sont confrontés, comme le Brexit, la situation énergétique, le changement climatique, mais surtout la crise migratoire, Bertrand Galichet.
Dossier majeur ici à Chypre, la question des migrants qui contribuent à fracturer l'Europe entre les partisans d'une ligne dure comme l'Italie et Malte, les pays qui se sentent abandonnés par l'Europe à l'image de la Grèce et les tenants d'une politique plus ou moins stricte comme la France ou l'Espagne. Depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement populiste en Italie au printemps dernier, ce sujet provoque des passes d'armes entre Rome et Paris. L'Italie est représentée ici par son président du Conseil, Giuseppe Conte, qui entretient de bonnes relations avec Emmanuel Macron et tente d'arrondir les angles. L'Élysée affiche une indifférence totale face aux critiques proférées par Matteo Salvini et Luigi Di Maio, mais en creux, la polémique existe bel et bien. Avant-hier en Égypte, Emmanuel Macron avait déclaré sans embâge « Le peuple italien est notre ami et mérite des dirigeants à la hauteur de son histoire ». Une remarque un peu acide et qui en dit long, aucun entretien bilatéral spécifique n'est prévu entre le président français et le dirigeant italien, mais les deux hommes vont bien sûr se parler ce soir. À 4 mois des européennes, cette réunion de chefs d'État et de gouvernements européens du sud de la Méditerranée travaille sur les sujets les plus urgents, à défaut d'être les plus fédérateurs.
Bertrand Galichet à Nicosie. À 4 mois des élections européennes, Bruxelles veut lutter contre la désinformation en ligne. La Commission européenne redoute les effets des canulars, infox et intox sur le débat démocratique. Et aujourd'hui, elle hausse le ton vis-à-vis des grands acteurs d'Internet. Elle réclame plus d'efforts à Facebook, Twitter et Google. Elle veut qu'ils intensifient leurs efforts. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Aurélie.
Facebook a pourtant pris les devants hier en annonçant de nouvelles mesures de transparence et de surveillance de ses contenus, mais c'est insuffisant pour Bruxelles.
Oui, la Commission européenne agite le spectre d'une échéance électorale faussée. Une élection sous influence fin mai, comme l'ont peut-être été le vote pro-Trump aux États-Unis, pro-Brexit en Grande-Bretagne, voire pro-indépendance en Catalogne. Et Bruxelles hausse le ton. Certes, les géants du numérique ont signé un code de bonne conduite à l'automne. Ils se sont engagés à fermer plus rapidement les faux comptes et à distinguer plus clairement la publicité politique de l'information. Mais ce code est non contraignant. Le temps des bonnes paroles est révolue, dit-on à Bruxelles, en dépit des efforts de Facebook qui a hier pris les devants. Ainsi, les pubs politiques seront accompagnées de la mention du commanditaire et une war room va s'installer à Dublin pour surveiller l'intégrité du scrutin. Mais tout cela ne verra pas le jour avant 2 mois. Trop long, prévient la Commission.
Bruxelles qui menace de réglementer la question.
Oui, à l'image de la loi votée en France à l'automne dernier, une loi critiquée par les défenseurs de la liberté d'expression qui redoutent maintenant que les efforts de la Commission européenne aient pour effet pervers de confier la censure à des algorithmes et à une poignée d'experts de la Silicon Valley. D'autant que plusieurs études américaines ont récemment mis en doute l'influence réelle des fake news sur les choix électoraux des internautes.
Louise Baudet, la France est 21e du dernier rapport de l'ONG Transparency International. Chaque année, l'organisation classe près de 200 pays en fonction de leur niveau perçu de corruption dans le secteur public. En queue de peloton, la Somalie, qui arrive derrière le Yémen, le Sud-Soudan et la Syrie. Les pays nordiques dominent toujours le classement. Un fait notable cette année, les États-Unis perdent des points, l'eau et glorie, et la présence de Donald Trump au pouvoir n'y est pas tout à fait étrangère.
Oui, les États-Unis sortent du top 20. Ils sont 22e, 71 sur 100. Ils perdent 6 places tout de même depuis le dernier classement. Alors d'après Transparency, cette chute intervient alors que le pays fait face à des menaces sur son système de freins et de contre-pouvoirs ainsi qu'à une érosion des normes éthiques au plus haut niveau du pouvoir. Une fois que l'on a dit ça, comment ne pas penser bien sûr à la présidence de Donald Trump. Il y a les attaques contre la presse. Récemment, ce correspondant de CNN interdit d'accès par exemple à la Maison Blanche. Pour ce qui est des normes éthiques, les mensonges quasi permanent du président ou encore son soutien infaillible au juge Kavanaugh accusé de viol. La liste est interminable, les soupçons d'entente avec Moscou lors de la dernière présidentielle, le refus du milliardaire de donner le détail de ses comptes en banque, etc. etc. Bref, tout cela participe à créer un climat de corruption et c'est bien cela la perception de la corruption que mesure Transparency. La présidence Trump, nous dit l'organisation, a mis en lumière les failles du système américain, mais le président est un symptôme plutôt qu'une cause. Les problèmes existaient déjà avant son entrée en fonction. Merci à Donald Trump finalement d'avoir mis en lumière cette situation qui concerne bon nombre de démocraties.
Loïc Loury en direct de New York. Au Venezuela, le procureur général interdit à l'opposant Juan Guaido de sortir du pays et les comptes du président du Parlement sont gelés. Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président en exercice du pays, est actuellement porté par les nombreuses manifestations hostiles à Nicolas Maduro et par le soutien de pays comme les États-Unis. Une grande partie de l'Europe et de l'Amérique latine. Et ce soir, justement, Juan Guaido remercie la France de son soutien.
Emmanuel Macron a suivi de très près la situation au Venezuela. Il s'intéresse beaucoup aux questions de démocratie, de liberté, pas seulement au Venezuela, mais dans le monde entier. Je crois qu'il y a un soutien important à la cause vénézuélienne. Ce qu'on voit en ce moment au Venezuela, c'est le résultat de beaucoup de sacrifices, d'efforts, de contestations. Nous avons rejeté le résultat électoral du 20 mai dernier. Nous sommes parvenus à ce que tout le monde reconnaisse notre constitution et la cause démocratique vénézuélienne. On remercie beaucoup le président Macron pour son soutien à la constitution et à la lutte pour la liberté et la démocratie au Venezuela.
Le leader de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido au micro de notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier. Le gouvernement palestinien a remis sa démission à Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne s'emploie à former une nouvelle coalition. Il espère ainsi isoler ses rivaux islamistes du Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza. Gaza, où une scène surréaliste se répète tous les mois depuis début novembre. À chaque fois, un envoyé du Qatar entre dans l'enclave. Il livre des valises remplies de billets aux employés du Hamas, pourtant considérés comme groupe terroriste. Tout cela avec la bénédiction d'Israël, car l'enclave est ainsi maintenu hors de l'eau, ce qui assure à Israël une forme de tranquillité à peu de frais. Mais cela renforce aussi l'emprise du Hamas sur la bande de Gaza et cela n'offre pas de solution à long terme pour cet endroit coupé du monde par le blocus israélien et la frontière égyptienne. Étienne Monin.
Dans un décor de sable près de la frontière israélienne, entouré par une foule, le porteur de valises qatari scelle un pacte avec le numéro 2 du Hamas. On est début décembre, la deuxième livraison de billets est arrivée dans l'enclave. La distribution se fait en dollars pour les employés civils du Hamas qui n'étaient plus correctement payés depuis des années, dit Abou Hassem, fonctionnaire presque au bout du rouleau.
Cela crée du désespoir. D'accord, on a la responsabilité de servir les gens. Et c'est notre devoir. Mais en même temps, le fait de ne pas avoir de salaire, c'est un vrai problème. Et c'est compliqué de vivre comme cela.
Chaque mois, un émissaire passe donc la frontière avec l'accord des Israéliens. Il fait entrer 15 millions de dollars en petites coupures. En échange, le Hamas maintient le calme dans l'enclave, ce qui arrange les islamistes et le premier ministre israélien. Mais on reste sur un statu quo. L'aide a été calibrée pour 6 mois. L'étape suivante, comme souvent à Gaza, c'est l'inconnu. L'ancien ministre Hamas des Affaires étrangères, Razi Ahmad, avoue qu'il n'y a pas de visibilité.
Jusqu'à présent, on ne sait pas. Mais on discute avec des acteurs internationaux comme le coordinateur spécial de l'ONU, comme les Qataris, les Égyptiens, pour essayer de faire en sorte que l'assistance continue.
L'aide du Qatar ressemble à une assistance respiratoire. Elle est devenue nécessaire après un cycle de sanctions financières décidées par le président palestinien. Mais en contournant l'autorité palestinienne, ce dispositif brûle un peu plus ce qui restait de lien avec Ramallah. Atef Abou Saïf est porte-parole du parti présidentiel à Gaza.
C'est de l'argent pour le Hamas, pas pour la population. Ceux qui versent cet argent veulent que la bureaucratie du Hamas et ses structures continuent de fonctionner. Ils veulent que le Hamas reste au pouvoir et c'est ce qu'Israël souhaite.
Le levier sur lequel le Hamas s'est appuyé pour remettre de l'argent dans ses caisses, c'est la marche du retour, des manifestations à la frontière qui ont empoisonné l'été des Israéliens et écorné l'image sécuritaire de Benjamin Netanyahou. Cette marche du retour a été très violemment réprimée par les soldats israéliens, d'où la grande fragilité du pacte passé avec le Qatar. Omar Shaaban dirige le think tank Palfink, qui est un centre de réflexion.
Il y a beaucoup de colère dans la société palestinienne à cause de ça. Parce qu'ils ont le sentiment qu'on a été vendu à bas prix. C'est pour un horizon politique qu'on devrait se battre, même si on a besoin de cet argent. C'est un soutien très faible. C'est une intervention partielle et ça ne tient pas sur la durée.
Le processus a d'ailleurs déraillé en fin de semaine dernière. Le Hamas a refusé les fonds apportés par l'émissaire qatari, officiellement pour protester contre les freins mis sur son chemin par le gouvernement israélien. Le pacte aura tenu 2 mois. L'argent a été reversé dans le programme humanitaire de l'ONU.
Dossier signé Étienne Monin. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens lance un appel pour maintenir son budget en 2019. L'UNRWA a perdu l'an dernier son premier contributeur, les États-Unis. Elle a donc besoin du soutien renforcé de ses autres donateurs pour réunir 1,2 milliard de dollars. Le Quai d'Orsay ne confirme pas le retour prochain en France de 130 hommes et femmes français détenus par les Kurdes en Syrie pour leur implication dans le djihadisme. Paris étudie toutes les options, indique le ministère français des Affaires étrangères. Et parmi ces options, il y a effectivement celle du retour en France. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Paris laisse donc penser qu'aucune décision n'a été prise. Mais si on lit entre les lignes, on constate tout de même une évolution de la doctrine française à l'égard des ressortissants impliqués dans le djihadisme.
Effectivement, ils sont environ 130 Français détenus par les forces démocratiques syriennes. Cette coalition arabo-kurde combat l'État islamique aux côtés de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Jusqu'à présent, la France n'envisageait que le retour des enfants, pas des parents. Paris privilégiait un jugement sur place, y compris s'il impliquait un risque de condamnation à mort. Désormais, de l'aveu même du ministère des Affaires étrangères, Paris étudie toutes les options, y compris le retour en France. Alors pourquoi un tel changement ? Eh bien parce qu'en décembre dernier, les Américains ont annoncé le retrait prochain de leurs 2000 soldats déployés en Syrie pour combattre l'État islamique. Ce retrait risque de déstabiliser fortement la région. Ces zones kurdes pourraient être la cible d'une offensive turque ou revenir dans le giron du régime de Bachar el-Assad, avec pour conséquence une possible dispersion des djihadistes actuellement emprisonnés. Et pourquoi pas leur retour en France par leurs propres moyens, avec le risque terroriste que cela impliquerait. Le Quai d'Orsay précise donc que si les forces présentes en Syrie décident d'expulser ces prisonniers vers la France, ils seront immédiatement remis à la justice française et jugés. C'est donc un changement de doctrine qui se dessine, un changement imposé par la situation en Syrie.
Antoine Marette. L'examen de la proposition de loi anti-casseurs a débuté cet après-midi à l'Assemblée. Un texte proposé à l'origine par les sénateurs Les Républicains, mais largement remanié en commission. Et le débat se poursuit, Maxime Fayol, puisque pour l'instant, personne n'est d'accord.
Les premiers à s'offusquer sont les députés Les Républicains. Le texte vient de leur parti, au Sénat. C'est Bruno Retailleau qui l'a porté. Et aujourd'hui, il ne ressemble plus à rien, estime le député LR de la Manche, Philippe Gosselin.
C'est un texte très retaillé, et tellement retaillé qu'il n'y a plus de Retailleau. Voilà. Donc on s'y perd un peu. Bon, on votera peut-être les miettes qui restent dedans, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux, soyons très clairs. Aujourd'hui, nous, opposition Les Républicains, on va être un petit peu arbitre sur certains sujets, peut-être, mais surtout spectateur d'un match qui se joue dans la majorité.
La majorité, justement, a œuvré pour adoucir ce texte. Plus de périmètres encadrés pour les manifestations, plus de création de fichiers nationaux de casseurs. Tout a été fait pour rassembler, estime le député LREM Sacha Houlier.
Pour ce qui était inapplicable, disproportionné, mal rédigé, ou ce contre quoi nous étions dans désaccord, évidemment, oui, nous l'avons enlevé. Mais ça, c'est pas une surprise que nous sommes en désaccord avec les Républicains sur ces sujets-là. On a eu des discussions et on s'est dit les choses les uns dans les yeux. Mais en même temps, c'est nécessaire pour qu'à la fin, on ait l'accord et le compromis. Et vous allez voir que tout à l'heure, lorsque les votes s'exprimeront, il y aura une très grande majorité pour le voter ce texte-là.
Il n'empêche, même en l'état, le texte n'est pas acceptable pour l'insoumis Alexis Corbière.
C'est assez inquiétant, il y a une dérive autoritaire de ce gouvernement. Moi, je trouve que quand il y a près de 14 personnes qui ont perdu l'œil dans une manif, trois mains arrachées, on devrait tout le monde considérer qu'il y a là une spirale de violence qui doit cesser plutôt que de rajouter des lois inutile, inefficace, directement inspiré de la droite la plus dure au Sénat, on l'a vu.
L'examen dans l'hémicycle s'annonce long, rien que sur le premier article ce soir, réécrit par le gouvernement après son rejet en commission des lois.
Maxime Fayol à l'Assemblée nationale pour France Culture. Cinquième jour du procès de l'affaire Spanghero, le scandale de la viande chevaline vendue pour du bœuf. Et les deux principaux prévenus se renvoient la faute. Le négociant néerlandais Johannes Fasen soutient avoir toujours vendu du cheval au prix du cheval, tandis que Jacques Poujol assure que le néerlandais l'a berné. Il reconnaît uniquement des négligences sur l'étiquetage. Aujourd'hui, le négociant Johannes Fasen était auditionné à Paris, Florence Turm.
Y a-t-il eu entente entre Jacques Poujol, le directeur général de Spanghero, et le négociant néerlandais, ou bien Johannes Fasen a-t-il berné son client en lui vendant du cheval pour du bœuf ? Johannes Fasen est actuellement poursuivi en Espagne pour une affaire de viande de cheval impropre à la consommation, mais Madrid a accepté de le laisser venir pour la journée. Chemise blanche, veste noire, il s'exprime dans un français parfois un peu hésitant aux côtés de son interprète, et patiemment, la présidente du tribunal, elle, avance des questions précises et méthodiques. Vous dites qu'il n'y a aucun intérêt à modifier l'étiquetage, pourtant l'étiquetage a bien été modifié. J'ai rien à voir avec ça, réplique le prévenu. Monsieur Poujol, savait-il que vous faisiez livrer de la viande de cheval chez Spanghero ? Cette fois, la réponse vient sans équivoque, oui, parce que je lui ai vendu du cheval. Et que vous avait-il commandé, monsieur Poujol ? Demande encore la magistrate. Du cheval. Et du bœuf après. Il détaille les différences visuelles évidentes selon lui entre les deux produits. L'interrogatoire se resserre. Pourquoi avoir adressé des certificats portant sur la viande de bœuf ? Comment expliquez-vous que pendant la crise vous étiez au téléphone 30 fois par jour avec monsieur Poujol ? Tout le monde appelle tout le monde à ce moment-là parce que c'était la panique partout. Devant le juge d'instruction, lui rappelle la présidente, vous disiez que monsieur Poujol vous dictait les réponses qu'il fallait envoyer par mail, ce que les deux prévenus n'y font farouchement l'un et l'autre aujourd'hui.
Florence Turmo, au tribunal de Paris. Le tribunal administratif de Montreuil reconnaît la responsabilité de l'État dans le dossier des prothèses mammaires PIP. Saisi par une victime qui s'était fait implanter ses prothèses en 2005, le tribunal juge que l'Agence française de sécurité sanitaire aurait dû agir à compter du mois d'avril 2009, date à laquelle certains incidents ont été portés à sa connaissance. Or, la suspension de la mise sur le marché des prothèses PIP a été actée le 29 mars 2010. La météo du Nord à l'Aveyron, en passant par l'Île-de-France et la Normandie, 34 départements sont en vigilance orange à la neige et au verglas. Sur le littoral atlantique, 9 départements sont placés en vigilance orange au vent violent. À l'aéroport d'Orly, ce soir, une trentaine de vols seront annulés après 20h à cause de la tempête Gabriel. Demain, mercredi, il y aura de la neige à l'est, des averses sur l'ouest. Il pleuvra aussi sur la Corse. Il fera froid demain matin entre 0 et moins 2 degrés à l'intérieur des terres, entre moins 3 et moins 5 vers le massif central. L'après-midi, 1 à 5 degrés sur le nord et l'est du pays, en passant par la région centre, 5 à 11 degrés ailleurs. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.